Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être consacré au mieux vivre et à votre santé. C'est tous les jours de 11h à 12h30. Alors aujourd'hui, quel sera notre premier sujet du jour?
Eh bien Julia, on va commencer comme tous les jours par poser là une question à la fois pratique et intime. Ce matin, peut-on diminuer son niveau de stress grâce au sexe? Et oui, certains affirment que la sexualité est un excellent anxiolytique, mais en pratique, dans la vraie vie, cela fonctionne est-il vraiment, si c'est le cas, si cet effet existe, est-il aussi efficace chez les hommes et chez les femmes? Nous verrons donc tout ça en détail et on le fera avec Magali Crosset-Calisto. Elle est sexologue, psychologue et l'autrice du livre « Moins de sexe grâce au sexe » chez Albin Michel.
Et puis Mélanie, à 11h35, ce sera notre dossier santé du jour consacré ce matin à la réflexologie et plus particulièrement la réflexologie plantaire. Cette thérapie manuelle héritée de la médecine traditionnelle chinoise. Et bien déjà, on va découvrir ensemble ce que c'est et on apprendra aussi comment on peut pratiquer soi-même à la maison certaines techniques pour soulager les maux du quotidien. Et pour nous guider, nous recevrons Marc-Aurel Rocher, il est réflexologue.
Ensuite, Julia, à midi, dans notre séquence tendance, la chronique gastronomie du jour sera portée par le chef pâtissier Jeffrey Cagne. Il va nous proposer un mix aujourd'hui entre deux gâteaux qu'on adore. Si je vous dis brownie et cookie, vous dites miam, hein, ça
oui,
je m'en
miam,
doute.
Miam, miam, miam.
Mais ce qu'il va nous apprendre, c'est donc à réaliser des brookies. Enfin, franchement, je m'en sens lâche les babines d'avance. Ensuite, ce sera au tour de notre spécialiste beauté Maud Ravier de prendre soin de nous et ce midi elle le fera grâce aux bienfaits du froid. Cela aurait de nombreux bienfaits pour notre peau.
Et puis nous allons terminer ce tour de table avec la chronique de Sophie Braffman, notre experte mode, et aujourd'hui elle va nous présenter sa sélection de vêtements qui feront vraiment de très beaux cadeaux pour vous ou pour vos proches. Sophie va ouvrir sa hotte de Noël avec un peu d'avance sur Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1 et dans votre magazine Bien-être, Mieux Vivre aujourd'hui, on va se poser cette question. Peut-on diminuer son niveau de stress grâce au sexe?
Et oui Mélanie, on va décortiquer ce sujet intime ce matin. On verra si les choses sont différentes peut-être entre les deux sexes, car on entend souvent que pour les femmes notamment, au contraire, le stress et la charge mentale perturbent leur sexualité. Mais avant de détailler tout cela, on va demander à notre Tintin reporter ce qu'il a glané comme info sur ce thème. Bonjour Clément Lanoux.
Bonjour tout le monde, effectivement.
Je vous imagine poser ce genre de questions dans la rue.
Alors c'est vrai que c'est pas forcément toujours simple, puisque j'aime aller interroger justement avant d'ouvrir le sujet des Français dans la rue. On m'a dit on allait parler stress et sexe. J'ai choisi surtout un axe à votre avis.
Sexe.
Eh bah ouais, je tire au sort, voilà. Parce que vous le savez, pour moi le sexe pour le sexe, si c'est pas pour fonder une famille, je voyais pas l'intérêt.
Mais bien
alors
sûr.
Que finalement il y a plein de bienfaits selon les Français.
Ah, évidemment il y en a beaucoup. Je pense que d'abord c'est au niveau psychique. On sait que le sexe, ça met beaucoup d'hormones un petit peu en exergue. Et même si on est déprimé, si on est malade ou quoi que ce soit, le sexe fait du bien au cerveau, justement, grâce à toutes ces hormones.
C'est de pouvoir s'endormir très facilement après. Et oui, un gros câlin et après, un gros dodo.
L'atout principal, c'est de décompresser, déstresser complètement. On partage un moment privilégié avec son ou sa partenaire. C'est un moment pour lequel on est censé être absolument concentré et offert à l'autre. Voilà, on n'est pas censé penser à autre chose, au travail ou aux factures.
Qu'est-ce qu'ils sont
factures,
sérieux.
Effectivement, c'est pas glamour. Hein.
Exactement, mais il paraît que c'est un bon moyen pour les hommes pour contrôler leur excitation aussi, de penser aux courses, au ménage, de dire voilà,
ça calme
pensons
n'importe
autre
qui.
Chose. Ça calme n'importe qui, effectivement, Julia. Alors effectivement, le sexe a vraiment des bienfaits, notamment sur la concentration. On en parlait des hommes justement qui s'endorment parfois assez facilement. Peut-être qu'on l'abordera après, parce qu'il y a un effet chaos comme après le
c'est
stress.
C'est le deuxième effet qui se coule.
Il paraît. Et il y a aussi un effet positif sur le travail.
Alors je pense qu'on prend les meilleures décisions après l'avoir fait. J'ai pu constater ça pendant le confinement.
Oui, parce que si vous êtes au boulot directement,
oui, c'est bizarre.
N'attrapez pas n'importe qui comme ça pour pouvoir prendre une bonne décision. Il y a d'autres moyens, la discussion, des choses comme ça. Autre aspect positif, c'est bon pour la santé parce que ça reste du sport.
Oui, on peut perdre du poids. Hein. C'est assez sportif hein, quand même de base. Hein. Après, c'est vrai que ça dépend un peu du partenaire. Quoi.
Les bienfaits du sexe, c'est avant tout de travailler ma souplesse. Ça permet d'entretenir le corps, vraiment plus efficace qu'un cours de yoga ou de stretching.
Alors si vous n'avez pas les moyens de vous payer une salle de sport, effectivement, le couple, ça peut aider à garder une silhouette parfaite, à condition de le pratiquer régulièrement et de tenter, alors je ne sais pas, au niveau musculaire, il faut tenter des trucs, on verra des positions particulières. Mais pour cette dame, il y a une autre utilité.
Pour moi, le sexe, c'est aussi le ciment de mon couple. Il y a un dicton qui dit « quand ça va au lit, ça va dans la vie ». Personnellement, j'y crois assez et ça fait 28 ans que ça dure.
Eh ben, bravo.
Et vous, ça va
bravo.
La vie
moi, je suis quelqu'un de très heureux dans la vie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Voilà, merci beaucoup
Mais
Clément
Mais attendez la fin de l'émission quand même.
Voilà, pour cette entrée en matière tout en finesse, hein, comme toujours. On va poursuivre dans cette voie tout de suite avec notre invité du jour. Bonjour Magali Crosset-Calisto.
Bonjour.
Vous êtes sexologue, psychologue et l'autrice du livre Moins de sexe grâce au sexe qui est paru chez Albin Michel. Alors, on va parler de stress et de sexualité avec vous, mais il faut le dire, hein, des dizaines et des dizaines de livres, hein, sur le stress sortent chaque année en France. Est-ce que c'est devenu vraiment un fléau pour la société à ce point-là ?
Alors effectivement, le stress fait partie, hein, de notre quotidien, de notre existence, mais le phénomène n'est pas nouveau. Les premières études menées sur le stress datent de 1956 par le professeur et psychiatre Hans Selye, qui s'est aperçu qu'un symptôme était courant chez tous ses patients. C'était le symptôme du stress, alors qui pouvait se conjuguer sous différentes formes, on en parlera. Mm-hmm. Mais les premières études datent des années 50, donc vous voyez que c'est pas un phénomène récent. Et puis ça s'est accru avec le temps, avec les progrès de l'industrie, la robotisation de la société. On en demande toujours plus aux personnes au travail. Donc cette fameuse charge mentale, le surmenage, la fatigue.
Bien sûr, et puis nous les femmes aussi, on a cumulé les mandats, hein, on est allé bosser. Et on est très contentes d'ailleurs, mais voilà, on tient la famille, on tient un couple, on tient un boulot.
Exactement, c'est toujours d'actualité. On voit que les choses s'améliorent petit à petit, mais la différence salariale est encore là. Mmh. La double journée, comme on dit, est encore là pour bon nombre de femmes. Et donc, ce facteur de stress a augmenté, en fait, jusqu'en 2017. Il y a une grande étude qui a été menée par l'Observatoire de la Santé au Travail qui montrait que 65% des salariés se disaient stressés. Ouais. 65%, c'est beaucoup. Et 25% étaient en état d'hyperstress avec des conséquences délétères sur leur santé.
Alors vous parlez même d'addiction au stress. Franchement, on est devenu accro à ça en plus. Alors, tout a l'air négatif. Donc
alors, il y a deux choses. Il y a l'addiction au stress et le stress qui provoque des addictions. Mmh. L'addiction au stress, on le voit notamment chez les personnes qui vont avoir un burn-out. Mmh. Le surmenage fait qu'une personne est sous tension permanente, elle apprend à vivre avec cette tension, ses neurotransmetteurs sont en ébullition en permanence et il ne se repose plus. Donc, à un moment donné, ça craque comme un élastique et c'est l'effet de burn-out.
Clément ?
Et est-ce qu'à l'inverse, on peut ne pas connaître du tout le stress ? Est-ce qu'il y a des gens, comme si c'était une maladie, qui n'ont
Vous avez l'air toujours détendu, d'ailleurs. Je me suis toujours posé la question, vous êtes stressé parfois ?
Avant de monter sur scène, j'ai un peu le trac, mais je ne suis pas
stressé.
Mais
comme il fait l'amour, tout va bien.
Voilà. Sur scène, c'est un spectacle particulier, je vous expliquerai.
Alors, en fait, le stress, c'est quoi ? C'est un neuropeptide qui correspond à un neurotransmetteur qu'on appelle le cortisol. Donc, c'est une montée de cortisol dans le corps. Et le stress, au départ, il est positif, il est bénéfique. Il nous permet de faire face à une situation, à un état d'alerte. Mm-hmm. Donc ce stress nous demande soit de fuir, soit d'affronter, soit de se poser, c'est l'effet de sidération, un moment pour pouvoir prendre la bonne décision derrière. Certaines personnes ont une barrière et une défense vis-à-vis du stress qui est plus ou moins naturelle. Soit au niveau au départ génétique, soit familial, relationnel, éducatif. Tout dépend aussi de votre contexte de vie. Quand on est bien, eh bien on est plus armé pour affronter le stress. Et puis d'autres personnes vont être plus vulnérables face au stress parce qu'elles ont connu des moments difficiles, contextuels ou dans l'enfance.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission bien-être. Et ici, on ne cherche qu'à rendre notre vie quotidienne plus belle, plus douce et moins tendue. Car c'est notre question ce matin. Peut-on diminuer notre niveau de stress grâce au sexe ? Et on en parle avec Magali Crosset-Calisto, sexologue, psychologue et l'autrice du livre « Moins de sexe grâce au sexe » paru chez Albin Michel. Alors déjà Magali, comment vous est venue l'idée, le lien justement entre l'amour, l'épanouissement sexuel et la gestion du stress ?
Oui, alors c'est une très bonne question parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude d'associer stress et sexualité. Et en cabinet de sexologie, je voyais auprès de mes patients que derrière chaque demande, il y avait un symptôme commun, comme pour Hans Selye dans les années 50, c'était le stress. Donc en fait, des personnes ou des couples qui viennent en cabinet consulter pour un problème de libido, par exemple, pour une éjaculation prématurée ou précoce, comme on peut dire aussi, pour un problème relationnel ou même d'infertilité, eh bien, on voyait que derrière, une plainte courante était commune à tous, c'est le stress. Mmh. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à étudier et à faire pour passer des liaisons dangereuses entre stress et sexualité à ce que j'ai appelé les liaisons heureuses. Mmh. Donc, comment ? Parce que le stress, il étouffe la sexualité. On le sait, il vient vraiment perturber les cycles naturels des rencontres et du bien-être. Donc, comment essayer de créer un effet de levier pour se servir de la sexualité pour faire baisser le stress.
Alors, on va prendre peut-être déjà l'exemple des hommes, parce que j'ai l'impression, vous allez nous confirmer ou pas, qu'on n'est pas forcément parents. Pas pareil, hein. Clément lève les yeux, là, les sourcils.
Non, j'attends, je vais représenter la gente masculine.
Quel est l'impact, on va dire, ou les bénéfices, enfin, j'en sais pas dans quel sens on va prendre les choses, mais du stress dans la sexualité masculine.
Alors, le stress chez les hommes, il agit comme une angoisse de performance, souvent. Donc, on voit lié, en sexologie en tout cas, avec cette angoisse de performance, des dysfonctions érectiles et aussi des éjaculations précoces. Donc, ce sont les deux demandes principales chez les hommes dues au stress. Pourquoi ? Parce que la sexualité, ce n'est pas qu'une question de mécanique, c'est aussi psychologique. Donc, une personne qui se sent moins bien, qui a des troubles anxieux, qui est en déprime ou qui a un conflit de couple, eh bien, ça ne va pas marcher comme ça d'un claquement de doigts. Et enfin, la prise en compte de la psychologie pour les hommes dans leur sexualité me semble essentielle parce qu'on arrive à expliquer beaucoup de choses grâce à ce qui se passe aussi dans le cerveau et le bien-être ou au contraire.
Et oui, Clément, il se passe quelque chose dans votre cerveau.
Exactement, tout le monde. C'est pour ça, j'imagine, qu'on dit que les premières fois souvent sont nulles ou ratées, parce que j'imagine que les premières fois, c'est là où le stress est le plus présent.
Exactement. Alors, non seulement il y a le stress, mais il y a aussi l'inexpérience.
Bien sûr.
Donc, deux facteurs.
J'allais dire, ça sent le vécu, Clément, mais on
pas
me souffle
encore.
Même ça dans l'oreillette.
Pas encore, mais je vous dirai quand je l'aurai fait.
Ah oui, bien sûr.
Mais du coup, à l'inverse, chez les femmes, le stress va plutôt impacter leur vie quotidienne ou également leur vie sexuelle ?
Alors, on voit les deux. Ce qui arrive, la priorité, c'est qu'en cas de stress, la sexualité et le désir baissent. Mmh. C'est
automatique.
Quasi automatique. C'est pour ça qu'il va falloir être motivé. Et
pas
mettre...
forcément chez les hommes, pour le coup.
Et alors, chez les hommes, ça, c'est pas au niveau de la libido que ça va se reporter.
C'est plus mécanique,
plus naturellement.
Vous avez écrit tout à l'heure.
Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont avoir envie, mais ils vont pas forcément y arriver.
Voilà, tout à fait. Alors que chez les femmes, c'est la première phase, ce qu'on appelle la première phase de l'orgasme. C'est d'abord le désir et l'excitation qui sont impactés.
Mais une fois qu'elles sont dans l'action, ça va mieux, par contre.
Alors, si elles sont dans l'action.
Ça sent le vécu, là aussi.
C'est le problème, c'est de s'y mettre, hein. On est d'accord.
Voilà, parce que justement, pour beaucoup, du coup, il y a une raréfaction des rapports sexuels qui arrivent. Il faut écouter son rythme. Hein. Le but n'est pas de se forcer, attention. Le but est de retrouver de l'harmonie et du bien-être lors d'un moment intime.
Clément, vous vouliez dire quelque chose ?
Mais je vois partout aux infos que les Français, en général, sont stressés par le Covid, sont fatigués. C'est une forme de stress aussi. Est-ce que ça se ressent à l'échelle nationale ? Que les gens ont moins de désir ou dans votre cabinet peut-être, vous voyez ça ?
Alors, dans mon cabinet, mais aussi dans toutes les récentes études qui ont pu être menées sur ces deux années de pandémie, effectivement, il y a eu nettement moins de rapports sexuels que les années précédentes, avec en fonction des vagues aussi. Hein, il y a eu un regain de sexualité en novembre et décembre 2020.
C'est-à-dire après, on était où là ?
On a réouvert les bars. Hein.
on était justement dans des sorties possibles, on n'était plus dans le confinement.
Mais le confinement n'a pas boosté la libido des Français.
Au contraire.
Ah oui.
Au contraire,
autant avec ça à faire.
Et même au niveau, alors là, au niveau de la procréation, on est revenu à un taux de procréation égal à celui des années 40. Donc ça ne s'était jamais vu dans notre société.
Les années de guerre, quoi.
Les années de Seconde Guerre mondiale.
Ah ben non.
Donc les couples ont préféré différer au niveau des naissances. Et pour la sexualité, ça se retrouve aussi. Sachant que pour les personnes qui étaient à distance, il y a un nouveau type de sexualité qui s'est développé.
Par Internet, là, par écran.
C'est
les
cybersex.
Les cams, voilà. Quoi.
Comme
pour le sport. Hein. Oui. On a tout fait par Internet, par écran.
Oui, enfin, le sport, c'était plutôt en groupe.
Ah oui, c'est ça. Oh, bah.
Alors, j'ai l'impression quand même que le stress et la sexualité, finalement, c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus on est stressé, moins on a envie de faire l'amour et inversement. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faudrait se forcer un peu, même avec son amour. Et puis bon, après, ça repart, quoi.
Alors, ça va être tout l'enjeu. Vous avez tout à fait raison. Il y a un cercle vicieux qui est stress contre sexe. Et puis, il y a le cercle vertueux. Alors, si on met la sexualité au centre, mais j'ai envie de dire, on va enlever le mot sexualité. On va mettre l'amour. la tendresse, le désir, les petits plaisirs, les caresses. Donc, on va enlever la vision d'un rapport sexuel classique pour plutôt voir le rapport sexuel tel qu'il est conçu dans ce qu'on appelle le slow sex. C'est-à-dire, on ne vise pas la pénétration et ni la performance, mais on vise le bien-être et les sensations. Donc, on va plus être dans le faire, mais on va viser plutôt le ressentir, les sensations. Et c'est comme ça que petit à petit, la sexualité, mais l'amour, le bien-être, vont pouvoir contrer et faire un plan de lutte contre le stress.
Donc ça veut dire que déjà une caresse sur la tête, on est déjà dans une notion de sexe ou pas ?
Absolument, parce que...
Il ne vous en faut pas beaucoup.
Beaucoup de personnes ont une zone érogène au niveau de la nuque. Les zones érogènes, ça fonctionne comment ? En fait, Freud disait que tout le corps était érogène. Donc plus une partie va être choyée, stimulée, caressée, et plus elle deviendra érogène.
Donc,
potentiellement, nous avons tous des zones érogènes qui peuvent nous mener à l'orgasme différemment.
Donc vous êtes en train de nous dire quand même que même s'il ne faut pas se forcer, mais mettre un peu plus de cœur à l'ouvrage, on n'est pas obligé directement de passer par des positions de Kama Sutra incroyables.
Et voilà.
On peut se faire des petites caresses, tranquilles.
Sur la tête, on a compris, sur la tête. Hein, sur la tête, ça vous fait
la tête.
C'est tout à fait ça. Et puis prendre le temps, surtout. Parce que le stress vient aussi d'une temporalité qui est vécue comme anxiogène. Donc, prendre le temps, c'est-à-dire réserver un créneau éventuellement dans son agenda en disant « là, c'est du temps pour moi ».
Mais on ne met pas sexe quand même sur l'agenda.
Alors,
parce que moi, je suis capable de faire ce genre de trucs.
C'est ce que j'entends souvent, mais c'est très difficile de trouver une spontanéité, surtout en couple, le bon moment pour les deux et la proximité. Donc, si c'est pas...
Il y a
un effet de réel. Le principe de plaisir doit rejoindre le principe de réalité, là, pour le coup.
On dit souvent que le sexe est un antidépresseur naturel. On le dit, mais est-ce qu'il y a des preuves scientifiques de ça ?
Oui, on a des preuves scientifiques. Alors bon, attention, c'est il faudrait aussi parler de la fréquence.
Bien sûr.
Par rapport à l'antidépresseur, pourquoi et comment ça fonctionne ? En fait, pendant un acte d'amour ou un acte sexuel, nous allons sécréter au niveau de ce qu'on appelle le circuit de récompense, qui est le système du plaisir dans notre corps, dans le cerveau, et bien tout un cocktail chimique d'hormones, et notamment la dopamine, les ocytocines et les endorphines. La dopamine, ça nous booste. Les endorphines, ce sont les hormones du bien-être. Et les ocytocines, de l'attachement. On a envie de recommencer. Donc, quand ces hormones sont stimulées, eh bien, ça fait baisser le taux de cortisol et le taux de prolactine qui sont là pour, bien au contraire, créer des moments de tension.
Est-ce que vous nous racontez, là, ça marche dans un rapport à deux ou juste même une masturbation peut marcher ?
Alors c'est ça qui est intéressant parce que ça va concerner les personnes en solo, mais aussi en duo. C'est-à-dire que la masturbation, ben, ça fonctionne, ça stimule ces neurotransmetteurs, dopamine.
Ça fait pareil, quoi.
Alors, il y aura quand même un faut bien qu'il y ait une différence quelque part. Il y aura quand même une différence, c'est évidemment dans la rencontre entre deux êtres.
Oh bah c'est bien une main qui rencontre.
Voilà, il se passe ce que Didier Anzieux appelait le moi-peau, le toucher. Et dans le toucher, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en question, comme les neurones miroirs et l'empathie.
11h30 sur Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Sex Bomb de Tom Jones, vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes en studio avec Magali Crozet-Callisto. Je rappelle que vous êtes sexologue, psychologue et l'autrice du livre « Moins de sexe grâce au sexe » qui est paru chez Albin Michel. Alors on l'a dit, on a des questions de nos auditeurs pour vous, comme celle d'Augustin par exemple sur Instagram. Il vous dit « Faut-il adopter la positive attitude pour éviter que le stress ne gagne du terrain ? Si par exemple j'accompagne un proche faire un examen médical et que ça me stresse, est-ce que j'ai intérêt à lui dire tout va bien se passer ? En gros, la méthode Coué, est-ce que ça fonctionne, vous croyez ? On est un peu éloigné du sujet sexe, mais on est dans le stress, là.
Oui, alors on revient à comment faire quand on est stressé. Et effectivement, la positive attitude, ou alors méthode Coué pour le grand public, ou psychologie positive, ça fonctionne. Ça fonctionne pourquoi ? Parce qu'il y a une anticipation qui se crée quand on dit des choses bénéfiques, positives. On produit ces fameuses hormones dont je vous parlais tout à l'heure, et le corps se relâche. Il se détend par lui-même. Le fait de dire, de prononcer les choses permet déjà de se détendre. Je prends un exemple tout bête. on s'éloigne un petit peu, mais pas tant que ça. Les personnes qui consultent parce qu'elles ont une phobie au niveau de la parole, la prise de parole en public.
On en parlait il n'y a pas si longtemps, dans Bien
lundi,
fait pour vous.
Ouais. Ouais.
Qu'est-ce qu'on conseille à ces personnes en thérapie? C'est de créer un lien avec le public. Dès qu'elles arrivent dans la salle, dire bah écoutez, j'ai pas trop l'habitude ou je me sens pas très à l'aise. Merci de votre bienveillance. Et là, tout de suite, il y a un lien qui se crée. Donc, dans le cadre de votre exemple, le fait de pouvoir dire aussi à la personne qui l'accompagne, bon, ça va pas être facile, hein, ni pour l'un ni pour l'autre. Pour toi, je suis là, etc. Allez, on serre les coudes. Ça va permettre de vivre mieux l'événement.
Et de faire baisser le niveau.
Exactement.
Mais ça veut dire que quelqu'un qui n'aurait pas envie de faire l'amour avec son conjoint pourrait lui dire très clairement je ne suis pas très à l'aise avec cette situation, j'ai peur de ne pas y arriver et d'être troublée par tout mon stress. On peut avoir ce genre de parole avec son partenaire sexuel?
Dès qu'il y a de la confiance, on peut tout dire. Donc le but, si la confiance est là, oui, évidemment, parce que ça va resserrer les liens entre les deux personnes et créer du plaisir et de la communication.
Alors, il y a Mélina sur Facebook qui nous demande, enfin qui vous demande, est-ce qu'avoir un rapport sexuel avant un grand oral, un examen ou alors son entretien annuel, ça peut vraiment aider à arriver à cette échéance plus détendue? Il paraît que les grands sportifs font ça avant une compétition. C'est vrai ça?
On a parlé de choses comme ça avant la coupe d'une certaine Coupe du Monde, je crois.
Alors, très bonne question, parce qu'on a entendu deux sons de cloche pendant toutes ces décennies.
Il y a certains grands sportifs qui disent jamais avant une grande compétition.
Oui, d'autres, au contraire, oui.
Voilà. Alors,
il y a deux écoles, on va dire.
Il y a deux écoles. La première école qui dit jamais. En fait, ça concerne surtout les fonctions physiques du corps. Donc, le sport, par exemple, dans le football, on a entendu souvent, les entraîneurs disent bah non, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une manière pour des personnes de sentir qu'elles sont pleines, qu'elles sont remplies, elles ont la testostérone qui fonctionne et prête à aller au combat, chez les hommes, par exemple. Même si les femmes aussi ont de la testostérone, à moindre échelle, bien sûr.
Et vous voulez dire qu'un homme qui serait un peu plus vide, disons, serait moins efficace sur le terrain?
Alors, je ne veux pas forcément dire ça, parce qu'on va voir qu'en fait, il a des appétences et des compétences différentes s'il a eu un rapport sexuel avant.
Et en quoi il est mieux s'il a eu
un
rapport sexuel?
Il va être plus dans l'esprit d'équipe que le combat. Ah. Il va être plus dans l'altérité. Et on voit que pour tous les travaux intellectuels, et notamment les examens, arriver en étant détendu, en étant bien, en ayant connu un moment de bien-être avant, pas forcément le rapport sexuel complet, peut tout à fait clarifier l'esprit et permettre une avancée. D'ailleurs, si vous me permettez, Victor Hugo ou aussi Schrödinger, donc dans le monde de l'art et de la science, disaient qu'un rapport sexuel, pour eux, leur permettait de créer et de trouver de grandes idées derrière.
Merci beaucoup Magali Crozet-Calisto d'avoir accepté notre invitation ce matin, et merci pour tous vos conseils pour mieux apprendre à gérer notre stress, à s'en débarrasser notamment grâce à une sexualité de qualité. Mais même tout seul, elle a dit que ça marchait, hein, Julia.
C'est pas la complète, hein, comme on dit.
Allez, merci encore.
Merci beaucoup. À présent, Mélanie, on va changer totalement de sujet. Enfin, quoique la pratique dont on va parler dans un instant, à mon avis, elle aussi peut aider à nous détendre, à nous déstresser un max. On va faire un focus sur la réflexologie plantaire. C'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Alors voilà, pour découvrir ce qu'est réellement cette thérapie manuelle qui nous vient de la médecine traditionnelle chinoise, nous avons fait appel aujourd'hui à un spécialiste, Marc-Aurèle Rocher. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réflexologue et l'auteur du livre « Le guide de la réflexologie plantaire au quotidien » aux éditions Médicis. Alors, on va prendre les choses du début, hein, parce que moi, je n'y connais pas grand-chose dans ce domaine, justement. C'est quoi la réflexologie? Pourquoi on appelle cela la réflexologie, justement?
Donc, c'est une technique de massage et manipulation au niveau des pieds. Et on appelle ça la réflexologie parce qu'on agit sur des points qu'on dit réflexes. Donc réflexe, réflexologie.
D'accord, c'est clair.
Comme ça a l'air simple. Mais je suis en train de regarder votre livre. Ça a l'air super à faire la maison.
Elle adore les pieds, je crois. Ah, elle a un truc avec les pieds.
Mais moi, j'ai déjà fait de la réflexologie. Je trouve ça extraordinaire. Alors aujourd'hui, on va parler de réflexologie plantaire. On va voir ce que c'est. Mais il y a d'autres réflexologies, je crois, non? Crânienne, par exemple, ça existe?
Oui, on peut faire de la réflexologie crânienne, faciale, palmaire aussi sur les mains.
Ah bon? Ah oui, c'est bon, ça.
Ça sert beaucoup. Bon, c'est pas très joyeux, mais ça sert beaucoup pour les accompagnements en fin de vie parce que c'est beaucoup plus doux. Ou pour les personnes qui ont subi une amputation, par exemple, on va compenser un pied qui manque par une main.
Alors justement, c'est quoi la différence entre la réflexologie plantaire et un massage des pieds, finalement?
Eh ben, la réflexologie, un massage des pieds, c'est un massage des pieds. C'est une personne qui va vous attraper les pieds et qui va vous les manipuler.
On aime bien. Hein,
c'est tout à fait agréable. Il n'y a pas de souci. Une réflexologie plantaire, c'est quelqu'un qui va adapter sa séance et travailler des zones en fonction de ce que vous allez lui demander. Un petit entretien avant une séance. Ouais. Et du coup, la personne va adapter en fonction de vos symptômes et de ce qu'il y a à travailler, elle va adapter sa séance.
Les pieds, c'est assez ambigu. Hein. Il y a des gens qui adorent aller se faire masser, papouiller, machin. Mais moi, j'ai un mari qui déteste les pieds. Il supporte même pas l'été. Il est très malheureux parce qu'il y a des pieds partout, des gens en sandales. Ça le dégoûte, les pieds. Oui. Donc, moi, il refuse de me toucher pour faire un massage, par exemple, dans cette zone-là, hein, bien sûr.
C'est vrai. Oui.
Les pieds, ça le dégoûte.
Mais vous n'êtes jamais allé faire un peu de réflexologie.
Il faudrait que j'en profite, effectivement.
Si vous saviez le bien que ça fait. Oui. Hein. Parce qu'on peut tout à fait venir vous voir et par exemple, je sais pas souffrir de migraines et vous le dire et vous arrivez à activer des zones.
Alors, on va effectivement adapter la séance au problème qu'a la personne. Donc, effectivement, sur des migraines, alors le petit truc avec les migraines, c'est que ça peut venir de beaucoup de choses. Mmh. Ça peut venir de la digestion, ça peut venir de la fatigue, du stress, etc. Donc, effectivement, on va adapter ça pour soulager et accompagner la personne qui a des migraines. Par contre, faut savoir que c'est une technique d'accompagnement. Mmh. On ne guérit pas, on ne soigne pas avec la réflexologie plantaire, c'est vraiment juste de l'accompagnement en plus des protocoles et traitements médicaux.
Ça n'empêche pas de prendre un médicament.
Ah non, pas du tout, au contraire.
Enfin, c'est complémentaire, vraiment, on va dire, c'est ça.
Souvent on dit médecine parallèle, moi je préfère complémentaire parce que ça doit justement s'ancrer dans les protocoles médicaux et pas se faire à part.
On a vraiment une cartographie de notre corps sous les pieds, c'est comme ça je crois que cela fonctionne. Hein. Expliquez-nous de façon peut-être un peu détaillée, parce qu'on n'a pas d'image à la radio, où sont, je sais pas, les poumons de Julia, l'estomac de Julia, le cerveau au niveau de son Julia, gros orteil peut-être
sur votre pied droit.
Oui, si tout va bien, ses poumons sont dans sa cage thoracique.
Oui, bien sûr.
Par contre, effectivement, si on n'a pas il n'y a pas vraiment un fil qui va relier le dessous de votre pied à votre estomac. Ça, non.
Ça n'existe pas.
C'est plutôt ce qu'on appelle des points réflexes, donc qui vont aller envoyer des messages nerveux et qui vont se répercuter. Par exemple, les poumons, chez tout le monde, ça va être sur les deux pieds et ça va être au niveau des coussinets, tout simplement.
Les coussinets, c'est la partie un peu dodue
Entre l'orteil et la plante des pieds.
Très bien, décrivons-le.
Mais alors, elle vient d'où cette pratique? Je crois que c'est très très ancien.
Alors, l'origine exacte, comme c'est très très ancien, effectivement, on ne l'a pas forcément. C'est issu de la médecine traditionnelle chinoise. Mm-hmm. C'est un de ses piliers, mais on a aussi retrouvé des hiéroglyphes de massage de pieds dans les...
Il y a très longtemps, donc...
Oui, les massages des pieds, c'est connu depuis des millénaires.
Mais dites-moi, vous faites ça avec les mains? Parce que parfois, quand je vais dans certains instituts, dans la tradition chinoise, ils utilisent des ustensiles, des petits bâtons.
Il y a plusieurs types de réflexologie. Et effectivement, on peut utiliser des stylets. Alors, par contre, il faut s'accrocher, ça fait extrêmement mal.
Ouais.
Et c'est vrai qu'en Occident, en Europe, en France, on est un peu douillé là-dessus. Ouais. Puisque c'est vrai que dans la médecine traditionnelle chinoise, en général, on y va en termes d'appui, etc. Nous, on est un peu plus doux. Moi, j'ai un appui qui est assez poussé, quand il y a une zone sensible, j'y vais. Mais j'essaie de ne pas trop utiliser de stylet.
Bon, je suis sûre qu'on a déjà dû vous le dire. Moi, j'ai une question qui me taraude là depuis tout à l'heure. Ça veut dire que vous, votre métier, en fait, c'est quand même de toucher des pieds toute la journée. Les pieds, ça pue quand même, non? Enfin, je ne sais pas. Parfois, ce n'est pas désagréable avec certains patients.
D'où le chapitre les...
J'adore.
Un pied, c'est moche et ça pue.
C'est ça, exactement. Hein. Vous dites un truc intéressant. Hein. Vous dites prenez vos mains, vos deux jolies mains, enfilez dessus des gants, enfermez-les dans des boîtes en plastique. Et dans ces boîtes, elles respireront mal et ne pourront pas. Bref, pour tout ça, pour dire que finalement, nos pieds, ce sont des mains, mais qu'on maltraite un peu. Voilà, c'est ça.
Donc exactement. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, forcément, c'est moins joli que des mains. Mais après, non, un pied, ça ne pue pas, logiquement. Si ça pue, il faut se poser des questions.
Faut se laver.
Vous avez des astuces, peut-être, de réflexologue contre les pieds qui puent, vous?
Moi, j'utilise beaucoup le bicarbonate de soude que je mets dans les chaussures pour les odeurs. Et après, il y a le vinaigre de cidre qui est pas mal en bain de pied pour les odeurs aussi. Ou l'argile verte.
Vous commencez par faire un bain de pied à chaque séance?
Non, j'ai des lingettes.
Donc, il faut venir propre, hein, c'est l'idée.
Alors après, les gens parfois sortent du travail, donc j'ai quand même toujours des lingettes et je nettoie les pieds.
Et ça ne fait pas de chatouille? Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont... Vous êtes chatouilleux, je crois.
Un petit peu,
je crois que c'est la question qu'on me pose le plus. Non, pas du tout. En fait, c'est pas de l'effleurage, c'est pas des caresses, c'est vraiment
de la pression.
Donc, on va aller masser. Ouais. Donc le premier contact peut faire un peu bizarre quand on n'aime pas les pieds, quand on n'aime pas qu'on nous touche les pieds, mais pas de chatouille.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30. C'est votre émission bien-être tous les matins. Et Mélanie, on ne peut pas dire le contraire. Là, on est vraiment dans le bien-être.
Prend notre pied aujourd'hui.
C'est le cas de le dire. Moi, déjà, rien que l'idée de me faire papouiller les pieds, je me sens plus détendue. Alors, pour y voir plus clair sur la réflexologie plantaire, nous sommes toujours en studio avec Marc-Aurèle Rocher. Je rappelle que vous êtes réflexologue et l'auteur du livre Le guide de la réflexologie plantaire au quotidien aux éditions Médicis. Alors, vous utilisez, vous nous l'avez dit tout à l'heure, juste les doigts. pas d'instrument, en tout cas vous, hein, voilà. Mais est-ce que vous mettez de l'huile? Et si oui, est-ce que la qualité de l'huile a son importance?
Alors, on peut mettre de l'huile, notamment sur les pieds secs. C'est toujours mieux puisque quand les doigts glissent sur le pied, c'est plus agréable et pour la personne et pour nous, parce que le doigt qui rippe à chaque fois qu'on fait un mouvement, c'est pas chouette. Après, la qualité de l'huile, en général, effectivement, on prend du bio. On prend du pur le plus possible. En général, moi, je prends de l'huile végétale toute simple. Même si vous n'avez que de l'huile d'olive à la maison, vous pouvez faire un massage avec de l'huile d'olive. Le tout, c'est que c'est,
Mais parfois, vous le faites sans
oui,
huile du tout.
Ça peut aussi. C'est vraiment en fonction du pied.
Combien de temps dure une séance en moyenne, on va dire, et c'est quoi, on va dire, les indications les plus fréquentes que vous rencontrez? On vient vous voir pourquoi dans la majorité des cas?
Alors, une séance, ça peut durer 45 minutes, une heure.
C'est long, dis donc.
Oui. Une heure, c'est un grand maximum. Les indications principales, ça va être le stress, les troubles du sommeil, beaucoup la digestion. Tout ce qui est troubles de la digestion et la fatigue, l'anxiété, tout ce qui est hormonal aussi, beaucoup, pas mal de personnes ou de femmes en préménopause avec tous les symptômes qui vont avec. Et j'ai pas mal suivi de personnes en chimiothérapie aussi.
Alors, comment ça se déroule une séance? On commence par le haut ou le bas du pied?
On commence par le haut. On commence par le pied droit et par le haut du pied droit.
Ça a une importance d'ailleurs, pied droit, pied gauche ou
alors,
pas?
C'est plus une convention que quelque chose qui va vraiment gâcher un massage si vous commencez par le pied. Hein. Mais effectivement, en fait, en médecine traditionnelle chinoise, le côté droit est plus relié au physique, le côté gauche est plutôt relié à l'émotionnel. Donc c'est vrai qu'on commence plutôt par le physique et on termine par l'émotionnel.
Et donc, vous avez dit qu'on commence par le haut du pied, par les orteils.
Voilà.
D'accord.
Oh là, qui représente tout ce qui est tête, nerf crânien, etc.
Voilà, donc cette cartographie qu'il y a sous nos pieds, enfin d'ailleurs, c'est toujours sous les pieds, pas sur les pieds, j'imagine.
Non, il y en a un petit peu au-dessus, au niveau des entre les orteils.
D'accord, là il y a des petits points de réflexe.
Et puis il y en a aussi sur les côtés du talon.
D'accord.
Tout ce qui est notamment tout ce qui est système génital, etc. C'est plutôt sur le côté des talons.
D'accord. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour ne pas faire de réflexologie? Est-ce que chez certaines personnes c'est contre-indiqué?
Les ongles incarnés ou des choses comme ça?
Alors, les ongles incarnés, non, ça peut faire mal. On va éviter l'orteil concerné, effectivement. Mais sinon, alors par principe de précaution, on évite les femmes enceintes jusqu'à la fin du premier trimestre. Tout ce qui est les pieds des personnes diabétiques qui peuvent être très très fragiles, donc ça, vous n'êtes pas formé professionnellement, on évite.
Ah bon?
Oui, parce qu'en fait ça peut très vite s'entailler, ça peut, on évite.
Les pieds des diabétiques, c'est un sujet effectivement, hein, c'est important d'en prendre soin.
Et tout ce qui est phlébite, s'il y a suspicion de phlébite ou une phlébite dans le moins de 2 ans avant la séance, on évite aussi. Qu'en fait, en termes de circulation, ça peut potentiellement être pas chouette.
Pour nous donner un petit peu la cartographie, puisque là, on peut pas la voir à la radio, expliquez-nous. Donc, sous les orteils, par exemple, vous dites quoi? Il y a la tête, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme point réflexe sous les orteils et puis après un peu en descendant sur le pied?
Au niveau du gros orteil, par exemple, vous allez avoir les hémisphères cérébraux, vous allez avoir l'épiphyse, qui est une glande hormonale, vous allez avoir les cervicales, la gorge.
Encore une fois, c'est pas un fil qui va
non,
mon gros orteil à mon cerveau, c'est des points réflexes
Et
qui envoient des messages nerveux.
C'est la zone 2, en fait.
Ça, c'est le gros orteil.
Oui, ça, c'est
rien
juste le gros.
Rien que lui, il a tout ça.
On a encore d'autres, mais.
Et si on descend, là?
Du coup, en dessous, au niveau des coussinets, vous avez tout ce qui est poumon et cardiaque, donc le cœur.
Le système respiratoire cardiovasculaire, ok.
Juste en dessous, vous avez le fameux plexus solaire, celui que tout le monde travaille et celui qui fait pleurer les gens en séance en général.
Ah oui.
Avec le diaphragme, tout
vous faites pleurer les gens, vous, en réflexologie plantaire? Mais ils se sentent mieux après, j'imagine. Ouais, c'est ça.
Mieux dehors que dedans. Ouais. Et donc, on a le diaphragme tout autour. Et puis ensuite, en fonction de quel pied, on passe sur le système digestif haut, donc estomac ou foie. Et puis, système digestif bas, les intestins.
Et après, vous disiez les talons, c'est quoi?
Alors, les talons, on a surtout sur les côtés, on a le système génital. On va avoir les ovaires, on va avoir l'utérus. À chaque fois, je répète, mais c'est zone 2.
Oui,
effectivement, votre utérus est à sa place et pas sous votre pied. et ensuite, sur le côté interne du pied, on va avoir tout ce qui est tout le dos.
D'accord. Et alors, j'imagine que les résultats ne sont pas forcément immédiats. Combien de fois on doit venir en moyenne pour obtenir le bénéfice attendu? Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ou des exemples de patients chez
problème
qui vous
de digestion,
avez...
on va dire.
Ouais, voilà, chez qui vous avez amélioré un symptôme et notamment un problème de digestion.
Alors, l'avantage de la digestion, c'est que ça réagit plutôt très vite.
Ah, parce qu'il y a des choses qui réagissent mieux que d'autres.
En fait, ça dépend de la profondeur du problème aussi. Chaque personne étant unique, c'est vrai que le protocole s'adapte. Je dirais qu'à partir de 2-3 séances, on peut commencer à avoir des bons résultats sur ce qui est nerveux, sur ce qui est digestif. En fait, on va le sentir, mais des fois pendant la séance, en général, la première chose qu'on voit et où on sait que ça commence à faire effet, c'est que le ventre gargouille, mais peu importe qui. En fait, il faut
vous masser les pieds, entre guillemets, et le ventre gargouille.
En fait, ça, c'est tout simple, c'est que le système nerveux se relâche Et du coup, bah, la digestion se remet en route. Et puis,
voilà, parce que vous faites vos séances à midi à tout le monde. Et
qu'ils commencent à avoir faim. Je triche en fait.
C'est bon signe, justement, oui. Quand le ventre se met à gargouiller. On parlait du stress tout à l'heure. C'est idéal aussi pour le stress. Mais c'est quoi? C'est parce qu'il y a une zone réflexe ou c'est juste le fait de se faire masser?
Il y a déjà le fait de prendre du temps pour soi. Et je pense qu'on vit dans un monde où on n'en prend pas assez. Donc forcément, quand on se dit bah, « je vais me faire papouiller les pieds pendant une heure », c'est plutôt chouette. Et ensuite, oui, on va agir donc, sur les zones qui sont reliées au stress. Donc, on va jouer sur les hormones et notamment le point dont on parlait tout à l'heure, les surrénales, qu'on va aller essayer de...
Stimuler
De calmer pour qu'elles arrêtent un petit peu de nous stresser.
Elles sont où, ces glandes, sous notre pied?
Elles sont...
C'est
assez compliqué à décrire. Mais en tout cas, sur les mains, elles sont assez faciles à trouver.
Sur les mains,
sur
la main, c'est dans le gras
le muscle du pouce. Ouais. Et en fait, vous cherchez l'endroit qui fait mal dessus. Et dès que vous le trouvez, vous êtes sur les glandes surrénales.
Et donc, si on se masse ça, ça veut dire qu'on va se détendre un peu, quoi. Alors, si je suis stressée.
Si vous massez doucement, si vous les massez fort, ça vous évitera le coup de barre après manger le midi. Ça peut être
d'accord,
pas mal.
Oui, c'est utile, hein, d'accord. Et donc, vous disiez qu'on pouvait soulager des maux de tête. Et là, vous avez parlé du système digestif, on va dire. Pour des problèmes éventuellement respiratoires, vous avez dit qu'il y avait une partie du pied, là, justement, sous les orteils, où on s'occupe plutôt des poumons. Qu'est-ce que ça va améliorer, par exemple?
Alors, en général, sur les, on va en accompagnement, tout ce qui est les petits maux de l'hiver, les bronchites, etc., ça va pas mal soulager, surtout si on travaille le diaphragme, puisque le diaphragme souffre. Dès qu'on tousse, il va bouger. Donc, du coup, on va peut-être réussir à faire un peu baisser les quintes de toux, ou à faire décrocher un peu la toux.
Je crois que je vais vous confier mes pieds, je tousse un peu en ce moment.
Pas de problème. Mais effectivement, encore une fois, on ne soigne pas. On accompagne et on soulage.
Et pour le sommeil alors, parce que on est nombreux à souffrir de problèmes de sommeil, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer?
Alors, on va travailler tout le système nerveux, donc on va travailler tous les orteils. On va travailler toute la zone du dos, donc qui se trouve sur le côté interne du pied. Et parce qu'ici se trouvent tous les nerfs qui sont reliés à la colonne vertébrale et à la moelle épinière. Donc là, pareil, on va tout aller apaiser. On va aller travailler les hormones du sommeil, donc l'épiphyse. Et puis beaucoup le plexus solaire et les hémisphères cérébraux pour apaiser.
Mais est-ce que ça veut dire que sur des pieds différents, vous prenez le pied de Mélanie et le mien, ça ne fera pas du tout le même effet si vous activez un truc chez elle que chez moi?
Ça peut. Ça dépend vraiment en fait, ça dépend de chaque personne et du passé qu'elle a. Donc effectivement, peut-être que vous avez passé la séance à vous bidonner et puis
Mélanie va pleurer.
Voilà, Mélanie va pleurer.
Ou l'inverse, hein. Vous qui vous bidonneriez, hein. Non mais franchement. Et vous disiez le stress, le sommeil, très bien. On peut s'automasser parce que votre livre, c'est ça, hein, je crois, le guide de la réflexologie plantaire au quotidien. On apprend des choses sur cette discipline, mais en même temps, des conseils pour améliorer finalement tout seul notre santé.
Le but, effectivement, c'est que quand j'ai écrit ce livre, c'était de permettre aux gens de la pratiquer eux-mêmes, de manière très simple, puisqu'on n'est pas réflexologue en lisant un livre. Mais s'automasser, c'est tout à fait possible. Si vous êtes assez souple en vous asseyant, ça se fait bien. C'était surtout pour pouvoir masser vos proches. Là où une auto-séance est moins chouette, c'est qu'il n'y a pas le côté détente, on se laisse aller, puisque il faut quand même se concentrer sur ce qu'on masse. Et du coup, on ne va pas s'endormir, par exemple.
Alors, je ne sais pas si vous avez écouté le début de notre émission, mais on parlait justement du plaisir sexuel, de la sexualité
sur le stress.
Exactement. Ouais. Et vous, j'ai l'impression que dans votre livre, si j'ai bien compris, vous pouvez aussi booster la libido avec la réflexologie.
Il est où le point?
Eh bien, ça va être tous les points qui correspondent au système génital, donc tout ce qui est ovaire, testicule.
Mais vous faites quoi en activité? Ce point, vous donnez du plaisir?
Non. Bah, on fait augmenter un peu l'énergie et puis.
Non, on va pas vous provoquer un orgasme en vous appuyant sur le pied.
Il n'y a pas de réaction physique en général.
C'est pas possible, pas encore en tout cas. Merci beaucoup Marc Aurel de nous avoir accompagnés ce matin pour nous faire découvrir ce qu'est en pratique la réflexologie plantaire. On y voit plus clair, hein, Mélanie, grâce à vos explications.
Je pense que ça me fait envie. Moi, je crois que je vais me prendre une petite séance de réflexologie plantaire.
Je viens avec vous,
top.
C'est génial.
Merci beaucoup Marc Aurel. Allez, maintenant, Julia, on va lancer notre séquence tendance. Il est bientôt midi sur Europe 1, il est temps. Alors, il y aura d'abord la chronique gastronomie avec le chef pâtissier Jeffrey Cagne qui va nous faire découvrir un mix entre le brownie et les cookies. Il va nous révéler sa recette des brookies, une gourmandise à tomber, vous verrez. Ensuite, nous écouterons les conseils beauté de Maud Ravier. Elle va nous expliquer aujourd'hui comment le froid est un allié spectaculaire pour la splendeur de notre peau. Et enfin, c'est Sophie Braffman, notre spécialiste mode, qui fermera le bal avec sa sélection de vêtements qui feront de magnifiques cadeaux à Noël. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour. retour dans Bienfait pour vous, votre magazine consacré à notre vie quotidienne. Ici, tous les jours, on décrypte pour vous les bons plans du moment, les tendances dans tous les secteurs qui rendent notre vie plus agréable, plus facile. Alors justement, ce qui est particulièrement agréable en général, ce sont les conseils du chef pâtissier Jeffrey Cagne. Bonjour Jeffrey.
Bonjour Mélanie.
Quelle sera la douceur du jour avec vous?
Alors on va parler brownie, cookie, brookie, tous ces desserts qui sont arrivés des États-Unis et qui cartonnent aujourd'hui.
Ah bah chouette, ensuite ce sera à vous de jouer Maud Ravier.
C'était quoi ce chouette?
Bah, c'est-à-dire que je me régale d'avance.
D'accord, bon moment que vous êtes.
Maud Ravier, alors ça caille hein, en ce moment et bah le oui. Froid on déteste ça sauf vous. Alors vous vous dites que c'est bon pour notre peau, c'est bien ça?
Mais oui, moi j'adore le froid, c'est un véritable atout beauté, bien-être, anti-ride.
Bon d'accord, c'est ce qu'on verra.
Et enfin on terminera la séquence tendance du jour avec vous Sophie Braffman. Bonjour Sophie.
Bonjour Mélanie.
Une chronique et surtout plein d'idées pour remplir la hotte de Noël je crois.
Hein. Bah oui parce que les gens sont pénibles, ils n'aiment jamais leurs cadeaux. Il y a toujours une vieille tante grincheuse, un enfant pas content. Eh bien, je vais vous donner des idées.
Eh bien, tant mieux.
Très bien. Merci Sophie. Vos prescriptions mode, ce sera dans quelques minutes. Mais à présent, on va passer en cuisine dans Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
Jeffrey Cagne, je dois l'avouer, la promesse est plus que séduisante aujourd'hui. Mm-hmm. Les cookies, on en raffole. Les brownies, n'en parlons pas. Mm. Et donc, vous avez eu la bonne idée, je crois, de nous proposer ce midi de mixer ces deux merveilles. On vous écoute. Il y a quand même un gros engouement, hein, de toute façon, sur tous ces produits en général.
En fait, il y a un très gros engouement. Et ce qui est fou, c'est que les pâtissiers, au départ, ne trouvaient pas ça trop sexy. Ça veut dire qu'ils ne les fabriquaient pas. Ou on achetait ça plutôt dans les grandes surfaces en France. On trouvait c'est des brownies et des cookies en grande surface. On a tous connu ça jeune, ces boîtes de cookies. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça on en trouve vraiment partout et de très bonne qualité. La différence avec la grande surface, c'est que le cookie se mange très moelleux, avec les bords assez croustillants. Et le brownie aussi, c'est un dessert qui devient de plus en plus courant dans les pâtisseries. Et mixer les deux. Le brookie.
Ça fallait oser, j'adore.
En fait, c'est simplement une base de brownie avec un cookie cuit dessus. En fait, c'est à peu près la même cuisson. En fait, c'est juste magique.
Et le pire, c'est qu'il nous en a pas amené, quoi.
Non. Mais là, il a amené des cookies et des brownies, mais pas le mix.
Non.
Et
donc,
on a tout mélangé.
Vous m'excusez parce que ce matin, je me suis reposé un petit peu.
Tout ça parce qu'il a fait la fête hier soir.
Exactement.
Qui a dit ça?
Mais que je comprenne bien, moi, parce que j'ai pas bien compris. Le cookie, je vois bien. C'est quand même un petit peu croustillant, un cookie. Le brownie, il est plus moelleux, c'est ça?
Oui, mais en fait, comme le cookie, il est croustillant en extérieur, mais il est moelleux à l'intérieur. Mmh. Donc en fait, quand on va mettre le cookie sur le brownie à la cuisson, en fait, il va rester moelleux le cookie et ça va devenir croustillant sur les côtés, comme le brownie. Le brownie, quand on le prend,
tout ça, c'était pour que vous le fassiez passer, le brownie.
Une excuse. Il n'est pas hyper...
Oh, vous prenez comme petit bout comme ça aujourd'hui. Vous n'avez pas si fin que ça.
Le brownie, il est un peu croustillant sur les côtés, il est moelleux à l'intérieur. Et eh ben le cookie, c'est exactement pareil.
Moi, je préfère les cookies que les brownies. Vous préférez lesquels, vous, sur la table?
Cookies.
Je préfère le brownie. Je préfère le brownie que le cookies.
Pourquoi?
Parce qu'on y
ça,
est
c'est
là.
La question, c'est la question piège. Non,
alors,
c'est simplement que...
Non, mais la vie du pâtissier nous intéresse.
Le brownie, c'est vraiment chocolat. Le cookie, c'est pas chocolat.
J'avoue que ça dit, en mangeant un brownie, je me dis que finalement, j'aime bien les brownies.
Et le cookie est pas mal aussi. Hein,
c'est très bon.
On ne sait que choisir.
Où est-ce qu'on peut aller pour trouver de bons cookies, vraiment, selon vous?
Moi, je suis fan d'une adresse qui se trouve rue d'Aboukir. Mm-hmm. C'est une américaine qui s'appelle.
À Paris, hein, bien sûr.
Ouais, mais qui s'appelle Jean Wang 40.
Oula. Alors, vous nous l'épeler, peut-être.
J'ai un peu de mal à. C'est Jean comme Jean. Wang. H-W-A-N-G, 40, C-A-2-R-A-N-T. Et ça se trouve rue d'Aboukir, c'est une petite dame qui fait ses cookies tous les jours. On la voit travailler et franchement, c'est les meilleurs cookies que j'ai jamais mangés. Ils ne sont pas donnés. Mais franchement,
ils sont meilleurs que les vôtres?
Ils sont meilleurs que les miens. Mais non, mais en fait, c'est quand on est spécialisé dans un produit... On peut faire que du top. Il y a d'autres adresses. Il y a Scoop My Cookies, il y a Laura Todd. Il y a des vraies adresses
Maud,
aujourd'hui.
Moi, elle loge la tête. Je pense qu'elle a déjà
Scoop My Cookies, j'adore. Et Laura Todd, c'était il y a 10 ans, mais ils tiennent la route.
Mais aujourd'hui, en fait, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment. On voit que ça tient. C'est des affaires qui ont été montées il y a quand même un moment. Et ça se multiplie parce que les gens font la queue et raffolent des cookies. Et en fait, c'est juste le topping qui va changer. C'est même pas réellement le goût de la pâte. c'est ce qu'on va y mettre dessus.
Alors, on peut y mettre quoi, justement, comme topping ?
Eh bien, on y met ce qu'on veut. Alors, moi, je vais vous donner une adresse, une recette de pâtes.
S'il vous plaît.
Donc, bon, y a beaucoup de sucre dans le cookie.
C'est étonnant.
C'est pas vrai.
Il y a beaucoup de sucre dans le cookie. Mm-hmm. Du coup, elle prend les quatre cookies qui sont devant moi.
C'est le même goût, d'accord.
Alors, c'est 100 grammes de beurre.
Ça va, ça passe
100 grammes de sucre cassonade. Mmh. Donc, le cassonade, c'est le sucre roux.
Okay. Ça va.
Sucre de canne.
Même Julien le savait, ça, non ?
50 grammes de sucre semoule.
Ah oui.
25 grammes de sucre vergeoise.
Combien de sucre là-dedans ?
Eh ben, on met les trois justement pour ce côté très moelleux. La vergeoise va apporter beaucoup de moelleux et on peut mettre même un autre sucre qui s'appelle le muscovado, qui a un sucre qui a un goût très, très terreux et qui est très bon. Alors, 20 grammes d'extrait de vanille ou de gousse de vanille, mais c'est mieux l'extrait de vanille. Ensuite, on va y mettre 200 g de farine, un œuf, 4 g de levure chimique, 5 g de fleur de sel et on met 100 g de ce qu'on veut. Ça veut dire 100 g dans cette pâte, on met tout ensemble, on mélange, ça nous fait une pâte. Généralement, ça se fait avec une cuillère à glace.
Ah oui, pour faire la boule à la bonne,
pour faire la boule,
bonne taille.
Toujours pareil. Et en fait, vous y mettez ce que vous voulez dedans, donc du chocolat blanc, du chocolat au lait, des noisettes,
les trois,
des noix de pécan.
Moi je mets les
trois. Non, on peut mettre les trois.
On peut pas mettre de fruits rouges ?
Si, on met souvent ce qui se fait beaucoup, c'est le cranberry, mais le fruit, il faut qu'il soit déshydraté.
D'accord.
Confit ou déshydraté.
Si on met des morceaux de fraises, ça va
mouiller
le gâteau,
ça va remouiller, c'est pas terrible et ça vous le cuisez à 190 degrés pendant grand max 9 minutes. Tout dépend de la taille du cookie. C'est vraiment pour qu'il soit vraiment moelleux à l'intérieur. Si vous le préférez plus croustillant, laissez-le 5-6 minutes de plus.
Vous le préférez moelleux ou croustillant ?
Moelleux.
Tout le monde les aime moelleux maintenant, non ?
Moelleux. Ah, mais je vous dis, c'est ça qui est fou, c'est que petit, quand on avait ces cookies qu'on achetait, parce qu'on les a tous connus, ces cookies de grande surface, ils étaient vraiment raides. C'était
hyper dur.
C'était des sablés, c'était
des cailloux.
En fait.
Ouais,
c'était
ça,
des cailloux.
Ils étaient de mauvaise qualité, peut-être, on peut le dire.
Oui,
non,
oui. Et on est obligé de les tremper dans le lait. mais c'est vrai que le cookie moelleux, c'est on peut manger et ça se conserve très bien.
Eh ben moi, c'est pour ça que j'aime bien le manger vraiment jusqu'au cœur, quoi, Mélanie.
Vous vouliez vous arrêter avant ? Moi,
là,
j'ai mangé
que les côtés et je suis un petit peu frustrée.
Ah, bah, ouvrez-en un autre, on va manger le cœur.
Non, mais en plus, pour faire un brookie, c'est vous faites une recette de brownie, vous mettez juste, donc cru, vous le mettez dans un moule ou autre, vous mettez la pâte à cookie dessus et vous cuisez 15-20 minutes, pareil, à 190 degrés, ça vous fait les deux.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à midi et demi et notre séquence tendance se poursuit toujours dans une ambiance plus que détendue avec nos trois chroniqueurs.
On a la
avec
peau
nous.
Du ventre bien tendue aussi avec tous ces bookies.
Et bien à présent c'est à vous Maud Ravier, à vous qui allez nous livrer vos bienfaits, vos astuces beauté et je crois qu'on va un peu se cailler comme on dit.
Là on va avoir froid parce qu'on est en train de parler de d'eau glacée et de glaçons.
Ah oui.
Oui, carrément. Donc, pour celles qui ont l'habitude de se réveiller, de prendre une douche bien chaude, c'est pas mal, mais ça ramollit la peau, ça ramollit les tissus. À la rigueur, sur le corps, ça passe, mais pas sur le visage. Sur le visage, on va opter pour la bassine d'eau froide, le lavabo bien rempli d'eau glacée.
Dès le matin.
Alors, mais pour quelle raison déjà ? Expliquez-moi pourquoi on ferait ça.
Alors, parce que tout simplement, l'eau froide, ça a tendance à tonifier la peau. Ça a un effet drainant au niveau des yeux. Et puis, on sait que le matin, souvent, quand on se réveille, on a tendance à être un petit peu gonflé, effectivement. Les poches, les cernes, etc. Donc, finalement, ça va stimuler.
Bah, peut-être dans le bac à glaçons, là, vous avez l'air bien réveillé, là. Vous inquiétez pas.
Moi, j'ai une question pour une fois.
Ah, oula, oula, oula.
Est-ce que la cuillère qu'on met au congélateur, ça
Mais on n'est pas obligé de spoiler ma chronique. On n'est pas obligé de spoiler ma chronique.
Mais oui, ça fonctionne.
Mais ça fonctionne très bien. Donc, on met la cuillère effectivement dans le congélateur et on peut la mettre au niveau des yeux pour drainer et pour aider à retirer les poches.
Vous auriez pu faire ça ce matin.
Mais oui, j'ai coupé.
C'est pas très gentil.
Mais non, mais vous avez dit je me suis couchée tard. Alors voilà,
oui,
c'est tout.
C'est pas très gentil.
Donc ça fait la peau plus lumineuse, plus éclatante.
Et moi, je trouve que c'est l'idéal de faire ça le matin avant de se maquiller.
Très bien. Pourquoi idéal avant le maquillage, justement ?
Alors, tout simplement parce que, effectivement, c'est ce qu'on disait, quand on vient de se réveiller, les pores sont un petit peu dilatés. Et ce qui n'est pas bon, c'est sur une peau un petit peu moelleuse, comme ça, pores dilatés, c'est de mettre des crèmes, des maquillages, ça a tendance à obstruer les pores. Donc, le fait de mettre du froid, ça resserre bien les tissus, c'est l'idéal.
Mais on fait comment ? On met de l'eau froide sur des cotons, c'est ça ? Et on applique ?
Alors non, moi c'est vraiment, on va faire un peu comme Kate Moss.
Ah, okay. Ouais. Vas-y.
Kate Moss, bah, il faut savoir
elle est
que
un peu
tous
bouffie,
les matins.
Hein, Kate Moss, hein.
Ah bah dis donc, Kate Moss, Kate Moss elle a une cinquantaine d'années.
Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue d'ailleurs, ouais. Mais c'est vrai, peut-être qu'elle est un peu bouffie avec le temps.
Ah, vous êtes mauvaise, vous êtes mauvaise. J'ai pas, j'ai pas ce souvenir là. La tête dans les glaçons, ça va aller mieux.
J'ai l'impression qu'elle est toute jalouse.
Moi je dis qu'elle est belle.
Mauvaise.
Alors Kate Moss, elle met la tête dans les glaçons tous les matins. Vous pouvez rajouter dans votre eau de l'aloe vera, c'est exceptionnel aussi pour, ça fait en même temps, et drainant et hydratant. Et puis, bien évidemment, comme l'eau n'est pas toujours très peu calcaire, on va dire à Paris ou en tout cas en France, vous allez bien sûr mettre une petite lotion tonifiante après avoir mis soit vraiment à grandes eaux, donc on rigole avec la tête dans le lavabo, mais vraiment avec les mains, mettez vraiment de l'eau glacée. Vous pouvez même jouer avec les glaçons. C'est très
tous
efficace.
Les matins, là, je ne me vois pas faire ça, mais je suis sûre persuadée que vous avez raison sur les bienfaits. Ça fait quelle action, les pores dilatés sur les peaux grasses, par exemple ?
Alors, c'est très efficace aussi quand vous avez des zones inflammatoires au niveau du visage, donc des boutons, l'acné, etc. Pensez à mettre aussi des glaçons, parce que ça retire l'inflammation, donc finalement, tout ce qui est rougeur,
vous
etc.
Vous me regardez beaucoup.
Alors, tout ce qui est rougeur, etc., va être calmé par le glaçon. 2-3 minutes sur chaque bouton, c'est très efficace.
D'accord.
Et puis au niveau des yeux aussi, évidemment. Bah
alors, justement, les yeux, vous en parliez tout à l'heure à Geoffrey. Donc, petit conseil beauté pour tout le monde, les hommes et les femmes. On se met
mais Geoffrey,
donc...
il a plein de cuillères parce qu'il est pâtissier.
Bah ouais,
donc,
c'est pratique. Voilà. Donc, il peut se mettre même des spatules glacées sur les, sur les yeux. Mais,
entre deux brocs.
Mais autrement, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a ces trucs-là, les rouleaux
alors,
de
voilà.
Jade.
Soit vous avez les rouleaux de Jade comme ça, voilà. Essayez, vous allez voir, c'est vraiment glacé, ça amené. Draine. Et maintenant, ils les ont fait en inox dans la marque Beauty Glow. C'est
alors,
génial.
On va essayer de les décrire. Donc, il y en a un des deux, le rouleau de jade, hein, c'est ça, c'est comment dire,
c'est un rouleau à pâtisserie.
C'est comme un rouleau
ça
à pâtisserie.
Ça vient vraiment drainer et puis surtout ce qui est très intéressant aussi, c'est de pouvoir les mettre dans un frigidaire. Donc maintenant, il faut savoir qu'on a des frigidaires qui sont spéciaux pour les cosmétiques. Donc on arrête de mettre les crèmes, les vernis, etc. entre les oignons et le fromage.
C'est ce que vous avez, vous, dans
voilà.
Les instituts de beauté.
Beaucoup plus glamour. Mmh. On a effectivement des frigidaires absolument mignons.
À
on
mettre
peut
un peu dans la salle de bain.
Exactement,
c'est ça,
salle de bain, sur la table de nuit.
On et trouve du coup, ça où, les frigidaires à salle de bain?
Alors moi, je trouve qu'il y a une marque qui est géniale qui s'appelle Beauty Glow. Après, dans un autre tarif, on peut trouver aussi chez Jiffy, par exemple. Mm-hmm. Mais c'est l'idéal aussi pour quand vous avez les jambes lourdes, de pouvoir mettre les sérums, les crèmes.
Oh, puis au passage, on a les brownies et la crème de jour dans la salle
voilà.
De bain.
C'est-à-dire que
si
on mange un petit carré de chocolat avant de se coucher et de se faire un petit drainage au niveau des yeux, on est au top avec ce petit frigidaire de poche, j'ai envie de dire.
Mais c'est génial. Et entre les deux objets que je tiens en main, donc je rappelle, il y a le rouleau de jade qui ressemble, comme disait Geoffrey Kagne, à une sorte de rouleau.
Voilà, on va venir petit rouleau détendre à massage, les tissus. Hein, voilà, on va venir vraiment.
Et l'autre, c'est quoi
c'est gua sha à la base. Donc normalement, avant, c'était fait avec des pierres qui avaient des vertus, mais on s'est rendu compte
J'arrive pas à décrire cet objet de gua sha, là.
C'est en fait, c'est vraiment un effet tenseur. On peut le mettre au niveau de l'ovale du visage.
Ça ressemble à un truc de pâtisserie aussi. Comment ça s'appelle, ça
La marise.
Le bout de la marise, un peu, mais en pierre.
Et en fait, c'est un vraiment effet drainant. Donc le but, finalement, pour que la peau soit bien oxygénée, c'est de drainer les tissus.
C'est mieux, là.
Mais moi, je le fais tous les matins, je vous dis la vérité.
Mais oui, c'est exceptionnel.
Mais c'est exceptionnel. Et, ça,
et on le met bien au frais, bien évidemment.
Mais évidemment.
Voilà, parce que le froid, c'est anti-ride.
Ah, oh, j'adore. Mais oui, je le fais très régulièrement comme ça. Entre ces deux objets, qu'est-ce que vous nous conseillez?
Les deux.
D'accord.
Tout ça, non, parce qu'il y en a un qui draine et l'autre qui va vraiment lisser.
Ça vous intéresse aujourd'hui, c'est bien.
Non, mais moi j'ai souvent les poches. Donc
ouais, bien sûr.
3-4 minutes sur chaque œil tous les matins, glacé. Et ce qui est exceptionnel aussi, ce sont les glaçons que vous pouvez faire à l'eau de bleuet, thé vert, concombre, centrifugeuse, etc. C'est hyper efficace.
Très bien. Merci beaucoup, Maude, pour tous ces conseils, ces astuces
avec
beauté
plaisir.
Qui font bien circuler le sang. Le froid, c'est donc notre allié pour une belle peau. Mais on va quand même s'habiller un peu chaudement avec Sophie Braff. Quoique, je ne sais pas ce que vous avez prévu dans votre hôte de Noël du jour, c'est à vous Sophie.
Je voulais vous mettre une petite musique de Noël d'abord. Alors moi je ne sais pas vous, mais cette musique, ça me fait penser à un centre commercial bondé, un dimanche après-midi avec des gens un peu transpirants, suants, excités, énervés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Complètement,
bah
oui,
c'est
complètement.
Bizarre, vous voyez ça? Bah je ne sais pas, c'est l'ambiance des courses de Noël quoi, voilà. Donc, je ne sais pas, c'est toujours un peu compliqué quoi, on réfléchit à ses cadeaux, on se dit tiens Françoise la belle-mère, ah bah non, rien ne lui plaît, puis rien ne lui va non plus. Ma fille Harmonie, bah, elle n'est pas harmonieuse, hein, elle est adolescente et
donc elle est un peu moche. Mon compagnon, bah non, pas mon chien, mais mon vrai compagnon. Hein, c'est très dur de trouver un cadeau pour un homme.
J'avoue, c'est le seul que j'ai pas, pas trouvé encore.
Bah, voilà, ouais. Voyez, sauf Geoffrey. Alors Geoffrey, c'est facile parce que quand
je vais lui offrir un rouleau de Jade, j'ai compris que ça lui plaisait bien.
Mais non, mais un mec qui est cuisinier, au moins on a des ustensiles, des robots mixeurs.
Je pense qu'il a tout ce qu'il faut.
Il y a des trucs. Quoi.
Ouais, mais il a déjà tout. Lui.
Bon, il a déjà tout. Enfin, en tout cas, moi je dis, c'est quand même très difficile de trouver les bons cadeaux. Alors vous, vous rêvez de perles de diamants, de votre poids en or, peut-être. Bon, ça peut être un peu lourd. Mais bref, c'est quand même très difficile de trouver le cadeau adapté. Alors, pour les bijoux, parce que les bijoux, ça fait toujours hyper plaisir sous le sapin. Alors, il y a la team Van Cleef & Arpels, hein, ou le manège à bijoux. Hein. Il faut rappeler quand même, le bijou, c'est quand même souvent aussi une question de moyens, de prix. C'est-à-dire que soit on a du luxe très, 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 très cher, très, très beau, soit des choses vraiment très accessibles et parfois bien, parfois un peu moins. Alors, moi, ce que je voulais vous proposer, c'était du luxe accessible, justement, pour cette fin d'année, avec une marque de bijoux made in France, made in Sud. Là, on va apporter un peu de soleil. Alors, contrairement à mode, c'est vrai qu'on on s'est fait du bien avec le froid, mais si on peut avoir un peu chaud avec un joli petit bijou, je pense que c'est une belle idée cadeau. Et je pense à cette maison Gass, vous connaissez, voilà, qui existe depuis 1969. Et alors, ce qui est très chouette, c'est qu'ils proposent des bijoux lithothérapie pour les pierres.
Bien, c'est quoi la lithothérapie?
On se soigner avec les pierres. Ouais. Justement, de cette lithothérapie. Alors, ce qui est bien, ce sont des pierres qui ont du pouvoir. C'est très sympa, Julia, parce que c'est aussi l'occasion, par exemple, d'envoyer un petit message. Par exemple, vous achetez pour votre sœur qui n'a jamais osé se lancer dans quoi que ce soit des boucles en jaspe verte. Eh bien, ça va la rendre créative. Ou alors, pour Odile, votre belle-sœur un peu timide, et hop, de la calcite rose pour la confiance en soi, ou de la cornaline pour la vitalité. Eh bien, oui, Odile, faut arrêter d'être un peu molle pour l'année prochaine.
Bon, au moins c'est joli, c'est déjà ça.
Le
plus dur pour les cadeaux, ce sont quand même les enfants, surtout quand il y en a plein. On n'a pas non plus envie de craquer sa tirelire, ils sont hyper nombreux.
Ah non, mais ça, alors les enfants, bah évidemment, parce que c'est un peu leur fête hein, en plus, hein, Noël. Hein, finalement, nous on se retrouve un peu lésés, donc on a envie d'aider les enfants. Alors, je vais vous conseiller des petits cadeaux justement pas chers, et puis de la tête aux pieds, vous allez voir, c'est intéressant. Les chaussettes Jimillion, des chaussettes totalement dans l'air du temps, les neveux et nièces vont adorer. Ah. C'est super pour les ados. Je ne sais pas si vous vous rappelez, nous à notre époque, on avait les chaussettes Achille. Hein.
Bah oui,
voilà, bien sûr. Bah là, c'est un peu ça va faire la blague. Alors des coloris vifs, des petits bonshommes, il y a les mignons, il y a des sushis, des requins, des girafes ou des chiens. Bref, il y en a pour absolument tous les goûts et vous pourrez prendre un pack sans vous ruiner. Alors, autre idée pour les enfants, je vous ai dit de la tête aux pieds, un bonnet, le bonnet Cabaya.
Ah oui, je les connais, ces bonnets, j'adore.
Super. Alors, ces bonnets, c'est très bien parce que souvent, on a des ados hein, qui ne jurent quand même que par Shine et Primark et qui, en même temps, se la jouent Greta Thunberg. Donc là, on dit, bah non, c'est pas possible. On peut pas sauver la planète avec ce genre de choses, blablabla. Bla, bla. Et bien là, la boîte Cabaya, donc un partenariat avec Walmart, vous avez un flash code dessus. Et alors, c'est très ludique parce que ça explique aussi aux jeunes et aux moins jeunes comment le bonnet a été fabriqué, où la matière, les usines, le travail effectué. Et en plus, le bonnet, il est joli, il est sobre. C'est pas le pompon de Noël hein, du Téléthon, parce que ça, les ados, ils vont vous envoyer bouler, ils aiment pas trop. Là, vous avez vraiment un bonnet sympa dans la lignée des grandes marques sportswear.
Donc, plutôt des cadeaux unisex, pour filles et garçons, c'est ça?
Voilà. Alors, justement, parce que ça répond un peu à la chronique de la dernière fois, vous avez peut-être tous autour d'une table de cette table, une nièce ou un neveu gender fluide,
hein, ouais, c'est un peu, ou non binaire,
ou non binaire, exactement. Voilà, non binaire. On en a parlé la semaine dernière. Alors pour eux, je vais conseiller des choses plutôt flashy. On y va, on ose, avec un débarteur en coton Supima. Alors attention, le coton Supima, ça vient
c'est
des
quoi
States.
Ça, ouais,
ben oui, c'est un coton américain. C'est un peu ce côté, vous savez, seconde peau. Donc c'est très agréable. Alors ça se fait chez American Vintage. Et ce qui est très beau, c'est que vous avez des couleurs extrêmement flash. Alors vous avez du rose, vous avez du orange, vous avez même du moutarde, et ça se porte, c'est un petit peu transparent, mais vous savez, avec des couches un peu superposées. Donc on met ça avec un pull un peu oversized par-dessus, ça se porte à tout âge. Moi, personnellement, je ne suis plus une ado et j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Il faut juste faire un petit peu attention au lavage, hein. Faites pas comme moi, le mettez pas à 60 et avec d'autres couleurs mélangées, parce que là, c'est la catastrophe. Dans la lignée des cadeaux féminins, petite idée aussi pour votre maman, peut-être, ou votre belle-maman que vous aimez, Wonder Woman, qui a fait une collaboration avec La Redoute, le thème de Wonder Woman, puisqu'elle fête ses 80 ans cette année, et là, cinq stylistes de renom ont revisité en fait l'égérie. Donc vous allez avoir des choses vraiment très belles à prix accessible, comme un, voilà, faites par un grand créateur mais à des prix de plus grande distribution. T-shirt imprimé, combinaison, chemise, sweat, pyjama short. Bon, je trouve qu'avec ça, vous avez quand même une belle idée cadeau. Votre mère sera absolument ravie. Et pour monsieur, enfin, même si voilà, c'est pas Geoffrey, hein, donc il n'a pas forcément besoin d'ustensiles. Eh bien, rappelez-vous, on avait montré une fois une paire de sneakers chez Texto qui faisait la blague, qui était quand
très jolie. Je me souviens.
Et ben voilà. Eh bien, la semaine dernière, on a parlé des Chelsea Boots. Si votre mari est un peu non-binaire lui aussi, eh bien là, des Chelsea Boots chez Eram qui sont très jolies, qui lui feront un beau look et que vous pourrez même porter. Enfin, vous n'avez peut-être pas la même pointure.
Ah bah c'est super. Ça y est, on a tout notre panier.
Oui. de Noël qui a été fait par vous. Merci Sophie pour toutes ces belles idées cadeaux. Justement, j'ai pas encore envoyé ma liste au Père Noël cette année. Je vais sûrement y ajouter 2-3 petites choses de votre choix de sélection. Merci à tous les trois pour ces belles chroniques. Bien fait pour vous, touche à sa fin. Mais on sera de retour bien sûr lundi à 11h. Et Mélanie, lundi, quel sera le programme?
Alors lundi, dans Bien fait pour vous, dans la partie vie quotidienne de l'émission, je vous l'annonce, on va s'intéresser à un produit vital. J'exagère à peine, même Charles de Gaulle en parlait. Il disait, comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de quoi ?
Fromage.
Mais oui, évidemment, on va donc parler de fromage, ce produit adoré des Français, son histoire, sa fabrication, les fromages n'auront plus aucun secret pour vous.
D'ici là, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos remarques, si vous en avez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21.